Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
Il est de l'ARPQ l'ARPQ s'implique avec les camionneurs et tout ça dans le paysage du camionnage du Québec. C'est l'Association professionnels du camionnage du Québec. Je décapite tout ça, mais c'est correct. Francis Rouleau qui est au bout du fil. Comment ça va, Francis?
Bon matin, M. Thérien. Félicitations à votre beau programme. J'aime beaucoup ce que vous faites.
Bon matin à toutes les sauces. Moi, je peux l'appeler à 10 heures le soir. Francis me répond « bon matin
». J'aime ça de stabiliser la conversation tout de suite en commençant.
Écoute, Francis, je sais que tu as fait une entrevue la semaine dernière concernant les chauffeurs de camions lourds illégaux. Sont mal classifiés, ont eu des permis de conduire dans une boîte de Cracker Jack. On peut même dire que, pour certains, c'est une photocopie du petit frère qui lui ressemble, puis tout ça. Est-ce que c'est pas mal répandu? Bien répandu? On a un cancer dans notre industrie. Comment tu vois ça?
Comme c'est là, j'aurais tendance à dire qu'on a un cancer dans notre industrie. Parce que pour la simple et unique raison que ce stratagème-là a commencé à être pas mal plus populaire au cours de, je te dirais, au cours des, probablement de la dernière année, des deux dernières années. T'sais, on commençait à le voir, mais ça montait pas plus que ça. Puis là, plus ça va, pire que c'est. Puis, tu sais, on s'entend qu'on va appeler un chat un chat, OK? Ça se trouve être, ces travailleurs illégaux-là, ça se trouve être malheureusement tout le monde qui arrive d'outre-mer, qui ouais. arrive entre autres du Pakistan, qui arrive de l'Inde. Et puis, il y a eu des reportages qui ont été faits dernièrement qui disent que, justement, ces chauffeurs du Moyen-Orient-là sont rendus qui contrôlent. C'est autant ces chauffeurs-là que les compagnies de transport en tant que telles contrôlent environ 60% du transport canadien. Fait qu'on s'entend que, ouais. Fait qu'on s'entend que, on commence à avoir un gros problème par rapport à ça, là. Ce chiffre-là avait été donné dans un reportage sur transport routier il y a quelques mois, maintenant. Puis, tu sais, étant si donné que là, ça devient de plus en plus populaire.
Là. Si tu regardes, Francis, là, tu dois être comme moi, là, on fait beaucoup de millage la fin de semaine, là, tu sais, aller point A, point B. Je parcours beaucoup de kilométrages en motoneige, tout ça. Il n'y a plus grand compagnie avec des logos du Québec, ces routes au Québec la fin de semaine. Ça n'est ridicule.
Alors, des petits tremblés de transport, il n'y en a plus ben. Puis de toute manière aussi, on remarquera aussi une affaire, puis je pense que tu l'as remarqué aussi. Pendant l'été, ça a été quand même passablement tranquille. Mais par contre, là, on est rendu à l'hiver, les premières neiges ont commencé à tomber. Tu remarqueras que toutes ces compagnies-là, là, ils ont toutes au moins un truck dans le quota. Ils ont tous un truck qui n'a pas eu de clos au cours des dernières semaines. T'sais, puis on a vu justement avec la conférence de presse qui a été faite avec l'ACQ, l'APDQ, puis Teamsters Canada, justement, par rapport aux revendications par rapport à ce dossier-là. C'est justement l'APDQ qui parlait que là, sont rendus avec énormément de remorquages à faire par rapport à cette problématique-là, puis les gars ne seront pas payés en plus. C'est en train de toucher dans à peu près toutes les facettes du transport. Fait que là, il va se passer de quoi tantôt?
Bien, ce qui est difficile d'entendre, c'est que quand il y a un entrepreneur, une entreprise de transport qui fait venir des gens qui ont le désir d'améliorer leur sort de vie. Là, t'sais, on ne peut pas critiquer un hindou, un pakistanais, de dire « je vais venir gagner ma vie puis probablement gagner 10 fois ce que je gagne par semaine en Inde ou au Pakistan puis qu'on l'emmène ici, qu'on type une école, l'école va y faire avoir son permis de conduire d'une boîte de Cracker Jack puis on lâche lousse d'une tempête de neige. » C'est sûr qu'il va prendre le clou. Là. Lui, il n'a jamais connu une température de même. La formation est inadéquate, tout ça. Je sais que vous gravitez autour des fois des centres de formation. Là. Est-ce qu'on ne devrait pas obliger une formation de 615 heures? Peu importe, tu arrives de où, mais tu as 615 heures de formation, point final, puis il n'y a rien à négocier de ça. Là. Ça serait-tu un bon moyen d'arriver à avoir une meilleure sécurité sur la route?
Ben, le 615 heures en tant que tel, j'aurais tendance à dire, poignez ça, puis Rendre ça obligatoire à tous les nouveaux chauffeurs, c'est peut-être trop. Mais par contre, on regarde déjà, tu sais, il y a déjà des formations obligatoires à grandeur du Canada. Il y a juste le Québec comme c'est là, puis il me semble qu'il y a une autre province aussi que malheureusement, on n'est pas prêt encore à instaurer ça. C'est supposé être au mois de juin, normalement, cette année, on est supposé avoir au moins déjà une centaine d'heures. On parle d'environ 115 heures. Sauf que l'affaire qui arrive, c'est que. Pas 115 heures, il me semble que c'est une dizaine d'heures.
Oui.
Faut vérifier, l'excuse, là. Mais ça, il va y avoir une formation obligatoire qui va tomber en branle. Puis ça se trouve être directement le CCATM au niveau fédéral
Oui.
qui ont instauré ça pour toutes les provinces. T'sais, en tant que tel, déjà, on a une base. Mais par contre, la chose qui arrive,
Est-ce
c'est
adéquate?
une fois. Selon tout ce que j'ai entendu, ça s'enlignerait très, très bien. La
OK.
chose qui arrive, par contre, c'est que on regarde dans exemple la conduite sur la neige. C'est toutes des affaires là, on a des conditions qui sont très, très, très changeantes. T'sais, tu rentres dans le parc des Laurentides, il va faire soleil, puis à un moment donné, whoop, les nuages vont se mettre à apparaître, puis tu tombes dans une tempête de neige d'un coup. On
Oui.
s'entend que si tu n'as pas eu le moindre expérience par rapport à ça, tu embarques là-dedans avec une vanne, c'est sûr que ça va mal finir.
C'est clair,
T'sais,
c'est clair.
T'sais, on s'entend que, d'une manière, on n'a pas le choix aussi d'avoir à mettre dans la balance l'expérience des chauffeurs. T'sais, on s'entend qu'un Québécois, pour l'aine, qui a déjà chauffé son char, qui a déjà chauffé son pick-up avec un trailer dans de la neige, déjà a un moindrement d'expérience versus un gars que la seule chose qu'il a réussi avec, qu'il a eu affaire à combattre, c'est une tempête de sable. Fait qu'on s'entend que on n'est pas en même place, là.
Oui, effectivement. Puis il y a le fait que, bon, quand on débarque de l'avion, c'est la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui proposait ça ici. Il dit, pourquoi que on ne peut pas donner un permis de conduire à quelqu'un après, disons, un certain nombre de mois, d'années ici au Québec? C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Toi, tu pars de l'Inde, tu arrives, tu atterris ici, bien, je ne pourrais pas te donner une classe 1 avant que tu aies un minimum de, je sais pas, on va dire un an de permis de conduire classe 5. Fait que tu n'auras pas de classe 1 en débarquant de l'avion, tu ne seras pas capable d'avoir une classe 1 en débarquant de l'avion, si ce n'est que tu auras un permis de conduire canadien classe 5 pendant X nombre de mois, que tu aies traversé au moins une fois une période hivernale, puis voir comment ça se conduit un véhicule. Ça pourrait-tu faire partie d'une proposition ou peut-être même que ça soit une norme éventuelle parce que on débarque d'avion puis quelques semaines après on va trouver moyen d'avoir une classe 1 là, ce qui est tu sais puis j'ai rien contre les gens de l'Inde mais en Inde d'après moi il neige pas bien bien là.
Ben, c'est exactement. Puis moi, je vais répondre à ta question par une autre question. Nous, en tant que tels, autant toi, Benoît, autant moi, quand on a eu notre permis de classe 5, quand on a commencé à conduire à l'âge de 16 ans, ça allait être jusqu'à quel âge qu'on a eu le droit d'avoir un permis de classe 1?
Oui. Oh oui.
Ben, c'est ça. T'sais, ça se trouve être tout le temps, c'était 18 ans, c'était 18 ou 21 ans.
Nous autres, c'était
J'avoue que ça fait
18 ans.
longtemps.
Moi, c'était
Moi,
18 ans. Puis,
ben,
à cette heure, 16 ans, tu as un permis de classe 5, si tu veux. Il va falloir que tu sois avec papa ou avec maman ou avec quelqu'un qui a un permis de conduire. Mais avant,
c'est ça.
c'est 18 ans. Et, écoute, on sortait de l'école de formation, puis tu pouvais chauffer le char. C'était comme ça, là.
Ben, c'est ça, exactement. Okay. En tant que tel, pourquoi est-ce qu'ils ont pas la même réglementation que nous autres rendus là? Oui, quelqu'un qui arrive d'outre-mer, qui a déjà son permis de conduire depuis plusieurs années, c'est beau, c'est le fun. Mais bienvenue au Québec, bienvenue dans des conditions climatiques qui sont totalement différentes.
Oui.
Je pense que ça pourrait être une belle avenue. T'sais. Je dis pas nécessairement de mettre un 2 ans, mais déjà au moins ce soit un 6 mois, ce soit un an. Déjà, ça permettrait de leur donner de l'expérience de conduite ici, là.
Oui. Puis tu sais, juste la barrière linguistique. Ces gens-là arrivent avec une langue qui est le Punjabi, tant qu'à moi, je pense. Et après ça, apprennent l'anglais, puisque c'est la langue seconde. Ils arrivent ici au Québec, puis je ne veux pas faire de vagues avec la tragédie de Vallée-Jonction qu'il y a eu avant les fêtes, mais on a quand même perdu quelqu'un parce qu'il manque peut-être d'expérience, manque peut-être de connaissances, manque de traduction, pas capable de lire les panneaux, jamais fait de test de frein. L'enquête le démontra, mais tu sais, c'est visiblement un manque de formation puisque, bon, tu as une classe 1, j'ai une classe 1, moi, tu sais, un test de frein, on l'apprenait comment le faire puis comment aller le tester en haut de la côte, tout ça. Puis les centres de formation le montrent aussi. Donc, il n'y a pas de passe droit à y avoir. Oui, mais je comprends pas le français. Oui, mais tu viens au Québec. Moi, si je vais aux États, là, puis quand tu vas aux États, là, ben, il faut que tu saches les signes. Mais ben, ici, au Québec, il faut que tu saches aussi. C'est de même, il faut que ça marche, mais ça.
Ben, c'est ça, c'est exactement. On s'entend que, tu sais, puis en plus, merci de parler de l'exemple de Vallée-Jonction. Moi, justement, je suis un gars du nord de la Beauce, je reste à Saint-Alzéar, juste à côté de Sainte-Marie, puis Vallée. La côte de Vallée-Jonction, je la prends tous les semaines. Puis, tu sais, on s'entend que la quantité de pancartes qu'il y a avant d'arriver juste sur le pied de la côte, le gars aurait été supposé d'allumer par rapport au fait que là, il se passe quelque chose. Tu sais, puis en tant que tel, on n'a pas de caméra qui nous a montré si le gars a fait son test de brake sur le top de la côte avant de partir en descendant. Mais tu sais, même si le gars a fait son test de brake, il y avait un lit d'arrêt en bas.
En plus, c'est
pourquoi, ça. Pourquoi il ne l'a pas pris? Puis le lit d'arrêt sert quasiment à tous les mois dans ce côte-là parce qu'il y a du monde qui s'essaye quand même. Comme on a entendu depuis les dernières semaines, entre autres la famille de Mme Poulin qui se trouve être décédée dans l'accident, ce côte-là, éventuellement, il va falloir la poignée et simplement mettre nos trocs. Là. Il va falloir qu'il se passe de quoi. Parce que là, en plus qu'on vient de perdre une vie dans cet accident-là, mais les rangs n'ont plus d'affaires là. Tout le monde sort à Sainte-Marie. Tout le monde sort à la route Cameron pour passer par le centre-ville de Sainte-Marie. Le transit des camions est là. Puis tout est identifié. La quantité de pancartes qu'il y a sur la 73, à partir de Saint-Lambert, se rendre jusqu'à Sainte-Marie puis jusqu'à Vallée-Jonction, c'est pas normal que ce gars-là n'ait pas allumé.
Il y a une rue Jacob à Vallée-Jonction, Francis, qui semble être plus abrupte que ce qu'on a connu lors de la tragédie. Et cette rue-là, il y a des gens qui m'ont rapporté avoir vu et voir encore des camions parce que elle n'est pas marquée nos trocs, elle est là, tu sais. Bien, elle l'est probablement, mais ils passent par là pareil. Le GPS, qui est le bon ami de tout.
Et voilà.
Lâche-les, ton maudit GPS.
T'sais, on s'entend qu'un Québécois, un Canadien qui part avec un GPS, même que ce soit avec ton Google Maps ou que ce soit avec ton Apple Maps, quelqu'un qui a moindrement de tête sur ses épaules, oui, va se servir de son GPS, mais quand il commence à voir des pancartes de nos trucks puis voir des restrictions de poids, il n'ira pas s'embarquer là-dedans.
Non.
Puis, tu mets comme exemple la rue Jacob à Vallée-Jonction. Là, justement, elle, ça se trouve être une autre rock. Ça se trouve être. Dans le fond, la rue Jacob, ça se trouve être l'ancienne côte de Vallée-Jonction.
Oui.
Puis,
oui.
Cette côte-là, ce qui est le pire, c'est que, bon, malheureusement, je vais prêcher par le mauvais exemple, mais moi-même, personnellement, j'ai déjà pris cette côte-là en camion.
Okay.
Sauf que la chose qu'il y a, par contre, c'est qu'il se trouve avoir une ferme dans cette côte-là.
Okay.
Quelqu'un qui arrive avec un transport local, oui, tu vas partir, tu vas aller livrer là. La vanne à lait va aller livrer, la vanne de moulin va livrer, les tankers vont aller livrer. Mais par contre, quand il est temps de partir et de descendre dans la côte, sacrément, passe pas là. Puis même en plus que quand tu arrives dans le pied de la côte, la manière que les bâtiments sont faits, si tu as plus qu'un 45 pieds, je te souhaite bonne chance.
Oui, effectivement. Mais tu sais, dans le fond, je sais que, bon... on ne peut pas être toujours 100% alerte, puis tout ça. Mais, tu sais, juste le fait que... tu dois avoir vu le reportage de Marketplace à CBC, là où on donne des permis en échange d'une enveloppe brune, tout ça, là, tu sais. J'essaie toujours de comprendre, si j'étais le boss d'une compagnie, moi, je serais fier que j'aie un 10 ou 100 trocs, que tous mes chauffeurs soient qualifiés et que quand il y a une tempête de neige, je dors sur mes deux oreilles parce que j'ai du monde qualifié. Tandis que là, j'ai donné des enveloppes. Je sais bien que ça va se retrouver dans le médium quelque part à un moment donné, puisqu'il n'y a pas l'expertise puis l'expérience derrière le volant. Là.
Non, ça, c'est le bon vieux classique de la peau du gain. Hein. On s'entend qu'en plus avec ces compagnies-là... Ils sont comme tombés au stade où les compétences de ces chauffeurs-là, pas que je dirais qu'ils s'en foutent, mais ça prend juste quelqu'un qui a les papiers pour être capable de chauffer le truck, puis quelqu'un qui a des papiers avec les assurances pour réussir à partir puis décoller, pour réussir à rapporter. Puis, tu sais, ça va être un gros problème en plus. Depuis longtemps dans l'industrie, on n'arrête pas de parler des coupures de prix. C'est que là, on a directement le doigt sur le bobo. Il n'y a plus de plaster, il n'y a plus de cicatrice, il n'y a plus rien. On a le doigt direct dessus. En tant que tel, en réussissant à régler ce problème-là, ça va nous permettre de réussir à régler le dossier du coupage de prix en transport.
Oui, effectivement.
Parce qu'il y a tellement eu de liens qui se sont faits par rapport à plusieurs étapes, à plusieurs choses qui touchent le transport, qu'on parle des assurances, qu'on parle justement de la formation des chauffeurs, qu'on parle des permis de conduire. Il y a des choses que j'ai entendues qu'apparemment que même avec des pots de vin en Ontario, certains chauffeurs n'ont même pas besoin d'aller passer d'examen, ils sont capables d'avoir le permis direct. On s'est entendu que ça ne fonctionne pas, ça, là. Puis, tu sais, on a le problème avec ces chauffeurs-là. Comme je disais, les assurances, on entend par rapport au fait qu'il y a des flottes, que les gars, on va avoir 40, 50, 60 camions.
Oui.
Ils épongent les assureurs. Après un mois, ils les font désassurer. Puis, ils gardent juste 5-6 camions qui restent assurés. Puis, on va jouer à roulette russe. On va espérer que s'il y en a un qui vient qu'à se planter, ça va être un deux autres.
Oui. Puis, Pierre Gagnon nous en parlait hier, justement, Francis. Aux États-Unis, eux autres, Burroughs, bien, quand, mettons, je ne sais pas moi, Roger Inc. S'en va aux États, puis qu'il se désassure, bien, l'assureur, son devoir, c'est de rentrer dans le fichier central et de dire « Roger Inc. a, mettons, 26 trucks avec les numéros de série qui sont désassurés. » Et le DOT américain a tout de suite l'information. Donc, quand le truck passe sa balance... Je ne sais pas s'il faut rentrer manuellement la plaque ou il y a un lecteur de plaque, peu importe. L'écran vient rouge et ça dit ce camion-là n'est plus assuré. Si jamais je le désassure et que, mettons, Francis Assurance le réassure, bien dans le dossier, il y aura une réassurance puis le dossier tombera correct. Là, t'sais. Je ne comprends pas qu'au Québec, puis au Canada, on n'est pas un genre de canal où on pourrait se doter d'informations comme ça entre les contrôleurs routiers et entre tous les groupes d'assurance qui gèrent, ne serait-ce que les automobiles aussi. Là, t'sais, on te demande ton petit papier là, quand tu te fais intercepter, tout ça, mais pertinemment, on le sait, si tu es assuré, on pourrait le savoir déjà dans l'autopatrouille, qu'elle soit de contrôle routier ou de la SQ ou d'un corps policier local, que tu n'es pas assuré du tout. Là.
Bien, c'est pas pour rien que dans la conférence de presse et dans les demandes qui ont été faites par l'OPDQ, l'OCQ puis TMSUS Canada, justement, c'est par rapport au fait de demander à Contrôle routier Québec d'avoir plus de mordants. Ça peut être un des dossiers sur lequel il va falloir qu'il y ait de l'avancement. Mais sauf que la chose qui arrive, c'est que oui, Contrôle routier Québec vont sûrement regarder pour essayer d'avancer ça. Sauf que la fin qui arrive, c'est que sur l'autre bord, il va falloir que le BAC, le Bureau des assureurs du Canada, embarque aussi sur le dossier, que ce soit dans toutes les provinces. Rendu là, ça va tomber quasiment un dossier qui risque d'être pas mal plus fédéral. Donc, il y a tellement, que ce soit au niveau des assurances, que ce soit au niveau de la CNSST, que ce soit au niveau de Revenu Québec, de l'Agence du revenu du Canada, il va falloir que quand, justement, tu dis un contrôleur routier rentre un numéro de plaque, qu'il soit capable d'avoir plus d'informations.
Oui, effectivement.
Quand il arrive pour scanner le permis de conduire, qu'il soit capable d'avoir plus d'informations. Parce que là, tu sais, on voit ce dossier-là se promener, puis ce dossier-là amplifié. Là, on a des chauffeurs Inc. qui sont au volant du troc. Le troc est au nom d'une compagnie à numéro. La compagnie à numéro se trouve à engager ce troc-là par un broker qui se trouve être un autre compagnie à numéro. Fait que là, finalement, tu te rends compte que ces affaires-là, c'est des coquilles vides. Fait que les amendes que le gouvernement se trouve à donner, que Contrôle routier Québec se trouve à donner, c'est de la vie, mais ça donne absolument rien. Fait que, tu sais, encore une fois, il va se falloir qu'il y ait plus de mordants. Vous arrivez avec un dossier dans ce genre-là, tu me donnes le troc, puis tu me sacs sa fourrière. That's it. Il va falloir qu'il se passe de quoi.
Mais encore là, tu me sacs sa fourrière, les compagnies qui vont aller mettre ça dans une fourrière ne seront pas payées. Tu sais, comment je te dirais bien ça? Je pense qu'ils ont flairé toutes les failles de notre système. C'est-à-dire que je ne paierai pas le remorqueur, je ne paierai pas la fourrière, je ne paierai pas rien. Je ne paierai même pas le truck si jamais le truck était financé légalement, là, pas par la communauté, mais légalement. Puis, advienne que pourra, puis je me repars demain matin sur le nom à ma femme, sur le nom à mes enfants, peu importe. Je repars dans le transport, je me reloue un truck, je repars en business, puis je remagouille le système. Tu sais, pour avoir parlé à des gens qui sont dans le remorquage, qui me disaient, ben oui, on va te payer tout ça. Il dit, quand je demande le dépôt, oublie ça. Il n'y a aucun dépôt qui veut être... ils ne veulent pas en donner de dépôt. Ils n'en veulent pas de dépôt. Fait que c'est ceux qui ne payeront pas la compagnie de remorquage. Puis, oui, je vais te donner le papier d'assurance, mais il n'est même pas en vigueur, le papier d'assurance. Puis, même qu'il y a des avocats de ces entreprises-là qui sont assez crasses, véreux, pour dire... « Oui, mais on t'a jamais donné l'ordre de le remorquer, nous autres. C'est pas nous autres à payer. Reveille-toi vers celui qui t'a donné l'ordre. C'est un corps policier, c'est un DOT, c'est un contrôle routier. Mais c'est eux autres qui te payeront en facture. Nous autres, on t'a pas donné l'ordre. » Fait que ça va jusque-là. Donc, les remorqueurs, à cette heure, quand ils arrivent, il faut quasiment qu'ils fassent signer un document de 8 pages, bien imprimé, bien... puis c'est même pas sûr qu'ils vont être payés plus. Là. C'est incroyable.
Ah, oh, exactement comme justement M. Breton, il disait, ça va prendre des garanties de paiement, puis il va falloir probablement que ce soit le gouvernement qui se revire de bord là-dessus, parce que justement, quand tu trouves avoir un privé qui demande pour avoir un remorquage, c'est bizarre, hein, mais le trois quarts du temps, et même dire 9 fois sur 10, je suis à peu près certain que ce paiement-là est tout le temps fait, qu'il n'y a jamais de problème.
C'est un chèque élastique.
Quand tu arrives à faire avec... Bien, c'est ça. Quand t'arrives que c'est un corps policier, que là, on garde, t'as un contrat d'exclusivité, t'as affaire à venir te wigner, tu le towing, tu t'organises avec ça. Tu arrives en bout de ligne, le gars paye pas. Est-ce que c'est la responsabilité du remorqueur d'avoir à éponger ça? Là? On s'entend que ça n'a juste plus de bon sens.
Oui.
Puis on s'entend que un petit remorquage pour un gars qui s'est enlisé dans la neige, qui va coûter un 600-700$, ça c'est pas si pire. Mais un voyage de bois qui s'est renversé, faut-tu call des towing, que tu colles des dry box pour ramasser le stock, va donc coller des dompeurs pour faire venir des loadeurs, pogner ça, puis sacrer ça dans un trailer pour tout débarrasser. Non, là, tu tombes avec un bill de 15 000 000. On s'entend que si, c'est en plus, c'est tous des sous-contractants. Fait que, en tant que tel, ça se trouve être le remorqueur qui a eu affaire à aller engager du monde pour aller faire ce job-là. Fait que lui, en plus, est pogné avec des bills qu'il a payés par rapport à ça, sur un bill que lui, il ne se fera pas payer.
Ouais.
Fait qu'on s'entend que ça ne marchera pas tantôt. Là.
L'Association des routiers professionnels du Québec, bien, ça a été fondé pour regrouper ensemble les plus petits transporteurs, tout ça. Est-ce que tu as vu ou tu as entendu parmi tes membres des gens dire « on est à bout de souffle, on a de la misère à cause de ce stratagème-là, on est moins compétitif ». J'avais 2, 3, 4, 5 camions, il faut que j'en élève 1, 2 ou 3. Est-ce que tu as eu un son de cloche de même, mettons, dans la dernière année, Francis?
Son de cloche est pas mal pire que ça, Benoît.
C'est quoi?
Malheureusement, le problème qui arrive en ce moment, c'est que nous, en tant que tel, avec le RPQ, on se trouve à représenter pas mal plus les petites et moyennes entreprises.
Ouais.
Les gars qui ont 30-40 camions, qui réussissent à avoir des contrats de transport avec 3, 4, 5, 6 expéditeurs, t'sais, on s'entend qu'il arrive de quoi? T'as un contrat qui vient qui a pu être honoré parce que tu viens de te faire passer, parce que tu as eu une de ces compagnies-là qui est arrivé et qui arrive à du 30-40% de rabais. Au moins, tu es capable de te revirer de bord.
Oui.
Mais les petites compagnies, là, ceux-là qui ont 3, 4, 5 camions, tu avais juste un contrat avec une place. Tu viens de te faire passer. Je suis désolé, là, mais ça te l'est dans la porte. Ça te l'est dans la porte automatique. Puis ce qui est le pire là-dedans, c'est que ça va être la clé d'emporte. Je suis un des gars qui met la clé d'emporte à cause de ça.
À cause justement de la concurrence déloyale.
Bien, c'est ça. T'sais, on a été chanceux avant la COVID-19. Les taux étaient, pas je dirais, étaient bons, mais c'est endurable. Quand la COVID est arrivée, là, on a vu les prix du fioul se mettre à dropper parce que le monde ne sortait plus. Fait que là, pour nous autres en transport, ça a commencé à être pas mal plus intéressant. Quand la COVID a terminé, les prix se sont remis à monter, puis le bordel s'est mis à pogner. Puis quand la justice s'est mis à pogner, c'est vraiment pas le fun. En ce moment, on est en train de perdre des membres à cause que les gars, ils ont mis la clé dans le ventre.
Quel serait, parce que la semaine dernière, il y a eu la conférence de presse de l'ACQ, la PDQ et les Teamsters Canada, mais l'ARPQ, ça serait quoi votre message, Francis, que tu aimerais dire aux élus aux politiciens, politiciennes de ce monde qui, justement, laissent aller le stratagème, font la sourde oreille. Ils n'ont pas l'air à voir qu'il y a trop de problèmes avec ça, ne pensent pas à la sécurité routière. Ça serait quoi ton message que tu aimerais lancer?
Le message n'est pas compliqué. Le Québec a vécu depuis des décennies. Le poumon économique a toujours été quoi? Ça a été les PME. On s'entend que les multinationales, oui, engagent énormément de monde, mais au Québec, c'est les PME qui rapportent le plus au gouvernement. Là, en ce moment, c'est les PME qui sont en train de manger la plus grosse volée qu'on n'a jamais eue. Puis, comme je disais tantôt, non, on n'est plus au stade où c'est alarmant. Non, on a du monde qui sont en train de mettre des clés dans la porte, qui sont en train d'aller reporter les trucks. Il va falloir qu'il se passe de quoi, là. Puis, il va falloir que ça se passe rapidement.
Parce que sinon, on va en perdre d'autres, là.
Ben, c'est ça, exactement. Exactement. Puis, tu sais, ça fait déjà plusieurs compagnies que je vois dans la Beauce que c'est ce qui est arrivé. Puis, en plus, pour joindre l'utile à l'agréable, comme je m'amuse à dire, on parle des assurances, que nos assurances qui ont augmenté, le prix du fioul qui a augmenté. Ben, en plus, je commence à avoir des queues. Puis je te pose la question en même temps, Benoît, parce que j'ai entendu parler de ça.
Oui.
Je veux voir de ton bord si tu en as entendu parler.
Oui.
Des fraudes de fioul.
Ah oui.
J'ai commencé à entendre parler qu'il y a énormément de fraudes sur le fioul ces temps-ci. Et qu'apparemment, les fraudes sur le fioul viendraient justement de ces compagnies-là.
Oui.
Et puis, apparemment qu'il y aurait eu des cartes qui auraient été clonées. Et à venir à date, j'ai une seule pétrolière que j'ai entendue qui ont eu affaire à ces clones-là. Je ne la nommerai pas pour le moment, au pire des pires. S'il y en a qui veulent avoir l'information, qui viennent m'écrire sur Facebook, puis je les donnerai avec plaisir parce que je ne veux pas commencer à faire du name-dropping. Mais, tu sais, il faut que je le dise, les compagnies de transport, si vous ne watchez pas vos bills de fuel, il va peut-être être temps de commencer à le faire. Parce que là, on commence à avoir des problèmes par rapport à ça. C'est des billes qui se trouvent à passer directement sur les cartes dans les pipelines. Donc, je ne vise pas le tramor,
mais non,
je
veux non, dire non,
que
non.
c'est directement dans les postes à gaz. Que ça se trouve à des machines qui ont été clonées directement.
Pétro-Canada, Pipeline et d'autres aussi se sont fait mettre des bidules que quand tu rentres ta carte, elle lit ta carte, tu rentres ton code d'accès, bien, elle a copié ton code d'accès. Puis c'est plusieurs milliers de dollars en quelques heures qui sont fraudés sur vos cartes. Oui, il y a eu cette vidéo-là qui a tourné un peu partout, là, sur TikTok et compagnie, concernant un camion là, qui avait des bidons et qui collectait du fioul. Il se reculait à côté de toi, il vide, il repart, puis dans le bed en arrière, c'était des bidons qui récoltaient avec une pompe du fioul. Mais c'est arrivé ailleurs où tu te lèves le matin et tes deux bouchons de tank sont dévissés parce qu'ils ne prennent pas le temps d'hérisser et tu avais rempli bien plein ton carburant. Et, tu sais, plusieurs même, il y a des entreprises qui ont dit à leurs employés à cette heure, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils se font frauder du fioul, bien, ravitaillez-vous le matin. En faisant votre inspection, bien, allez au tank à fioul, ravitaillez le camion, faites votre inspection, puis redécollez, puis au moins, vous ne vous en ferez pas voler parce qu'il circule à côté de vous, puis là, il tinte, là, tu sais. Moi, je trouve ça dégueulasse. En plus de nous voler des taux, nous voler ses assurances, nous voler dans plein de dossiers, bien, en plus, on te vole le fioul, on te clone tes cartes, puis ouais, c'est affreux, c'est dégueulasse, mais c'est pas encore très répandu, mais on l'entend de plus en plus, Francis.
Ben c'est ça, exactement. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est oui, justement, ces vidéos-là, on les a toutes vues passer. Là. Les gars, ils arrivent et ils évitent les tanks à fioul. Mais je t'ai donné une idée pour le nouvel employeur où je suis rendu aujourd'hui, dans l'espace de 12 heures, dans le compte, ça a été pour 25 000 $ qu'ils ont volé.
25 000 $. Tu sais, regarde ça, là.
On s'entend-tu?
Stratagème Inc.
Ça n'a pas de bon sens. Là.
Stratagème Inc., en plus de voler l'État, de voler les coffres, oui, ça va dans le système de santé. On peut critiquer notre système, là. Mais quand tu le payes, tu peux critiquer. Quand tu le payes pas, tu peux pas le critiquer. Mais tu as les mêmes maudits services que tout le monde, mais tu payes pas ces services-là, puis tu essayes en plus de frauder dans le fioul. C'est affreux.
C'est ça, exactement. T'sais, on sent. Regarde, j'ai eu ma compagnie de transport pendant 12 ans. On s'entend que toutes les compagnies de transport, on engage tout un fiscaliste pour faire en sorte d'essayer d'en donner le moins possible au gouvernement. Mais ça reste qu'en bout de ligne.
Mais
on
ça,
en
c'est légal. Ça, c'est légal, Francis.
C'est légal.
Parce
voilà,
que lui, ton fiscaliste, là, il cherche la loi. Si la loi dit, Francis, tu peux déduire, je ne sais pas, moi, une partie de ta maison et ton bureau, tiens. Bon, ben, tu as le droit parce que lui, il s'est informé des lois. Le Stratagème Inc., c'est juste parce que le gouvernement ne va pas chercher son dû dans la poche de ces gens-là. Puis il ne veut même pas utiliser ses propres lois pour dire « ça suffit ». C'est ça qui est grave.
Ben c'est ça. Puis ce qui est le pire là-dedans, c'est qu'on parle des chauffeuring depuis tantôt. Le chauffeuring, en tant que tel, c'est totalement légal. La seule chose qui arrive, par contre, c'est qu'il y a une réglementation, malheureusement, qui ne se trouve pas à être suivie par rapport à ça. Et puis, justement, que Revenu Québec et Revenu Canada ne vont pas sévir, c'est qu'un chauffeuring, tu as le droit de l'être. La seule chose qui arrive, par contre, c'est que tu ne peux pas avoir un seul donneur d'ouvrage. Il faut être plusieurs donneurs d'ouvrage. Si tu as un seul donneur d'ouvrage, c'est pas compliqué. C'est du camouflage. Tu veux simplement pas payer de DAS. C'est tout. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre raison.
Oui, mais je te dirais que 99 % des chauffeurs Inc., j'aimerais voir leur fin d'année fiscale, puis ce qu'ils ont déclaré. Il y en a qui passent des pick-up. Ils sont chauffeurs Inc., passent un pick-up là-dedans. Oui, mon pick-up me rend au troc auquel je vais aller travailler. Puis les compagnies sont de plus en plus véreuses. Elles partent 3-4 compagnies. Puis là, ben lundi, tu travailles pour 248 Canada Inc., mardi, t'es l'autre. Mercredi, t'es l'autre. Jeudi, t'es l'autre. Fait que à chaque jour, envoie ta facture. Mais c'est tout le même portefeuille en bout de ligne, là, tu sais.
Et voilà. C'est de là pourquoi qu'on dit que c'est toutes ces compagnies-là, c'est toutes des coquilles vides, là. Si tu pars et tu s'en vas pour essayer de lâcher un coup de téléphone, même de ces compagnies à numéro-là, je sais pas pourquoi, j'ai bien l'impression que ça risque de s'en aller dans le poteau, là.
Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2025, Francis? Ça serait quoi, mettons, dans notre industrie, quelque chose de bon qui pourrait être, tu sais, plus positif?
Plus positif, je vais commencer par une chose, des élections.
Ça va. J'espère que ça va venir.
C'est sûr. Puis tu sais, on s'entend qu'on va avoir... Là, on sait tous qu'on va avoir un changement de gouvernement. La seule chose qu'on espère, par contre, c'est qu'au niveau des conservateurs qui vont embarquer sur le dossier puis qui vont essayer de nous aider. Mais par contre, au niveau provincial, gouvernement Legault, il va falloir absolument qu'il essaye de nous aider. Sinon, c'est de la dire, mais aux élections... On a vu au cours des derniers mois, au cours des dernières années, que le domaine du camionnage, quand il est temps de se rassembler, on est capable de se rassembler. S'il est temps qu'on décide de se rassembler pour prendre un gouvernement puis dire « on vote pas pour eux autres », on votera pas pour eux autres.
Ouais.
Fait que, tu sais, s'il est temps de commencer à faire des pressions dans ce genre-là pour être capable de réussir à avancer nos dossiers, ça risque d'être le genre de choses qu'on va avoir à faire. Parce que comme c'est là, c'est dommage, mais... Le gouvernement qui est en place en ce moment font la sourde oreille. Oh,
font rien.
Il va vraiment être...
C'est même pas à sourde oreille. Je ferme les yeux, puis oh, pas grave.
Ben, c'est ça, exactement. T'sais. Puis après ça, ben, tu sais, le comparatif, Benoît, que je faisais une fois de temps en temps par rapport au gouvernement. Il est beau le Titanic. Il est gros le Titanic. Il est luxueux le Titanic. Mais il tourne pas vite le Titanic. Puis quand il a pogné son iceberg, c'est là que ça a mal fini.
Il a coulé.
Mais là, l'iceberg, je pense qu'on est rendu dedans.
Ouais.
En tant que tel, il va falloir que le gouvernement... Comme je dis, on n'est plus au stade où c'est alarmant. Non, il faut qu'il se passe de quoi. Puis il faut qu'il se passe de quoi là.
Oui, effectivement. Francis Rouleau de l'ARPQ, merci beaucoup de ta participation. Il faut se parler plus souvent en 2025.
Clairement, regarde, mon téléphone est toujours ouvert.
Lâche pas, mon chum.
Yes, pas de trouble, joyeux Pâques.
Merci. On est en avance, correct, merci.
Salut.
Bye bye. Francis Rouleau de l'ARPQ, allez voir le site si vous voulez devenir membre, arpq.org. C'est la meilleure façon de devenir membre de l'Association des routiers professionnels du Québec. On fait une courte pause, restez là.
Un fléau éternel. Fais ci, fais ça, amène-moi des fleurs, mes postes sortent là, ils font les passes des Pécasses.
donner la bise quand tu te maries à l'église.